Radio Campus, Radio Radio Campus, Campus.
I listen to Radio Campus. 88.3.
Contestation. Répression.
Ouais, bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de clash.
À bâton rompu avec Hassan Kerim.
Allô ?
Bonsoir. Oui, c'est à bâton rompu qui démarre. J'entends Mourad derrière qu'on attend au téléphone. Bonsoir Mourad. Est-ce que tu nous entends, Mourad ? Et il nous entend pas.
Non.
Alors on va
essayer. Non, on l'entend pas non plus.
Bah si, je le vois, mais voilà, il se connecte un petit peu tard. Mais bon, on va commencer cette émission. On va essayer de la voir juste après. Bonsoir à vous. Bienvenue dans À Bâton Rompu sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours. Émission hebdomadaire d'info, vous le savez, hein, tous les mardis de 19 à 20 h. Nous parlons ici de sujets politiques, sociaux et culturels, comme dans l'émission de ce soir. Nous allons en effet discuter avec messieurs Christophe Galland et Renaud Debac, directeur et directeur adjoint de la scène nationale Théâtre d'Orléans, qui lance officiellement sa saison ce soir. On a une petite vingtaine de minutes d'interview pour parler du premier trimestre jusqu'en décembre à peu près. Dans l'émission également, je vous disais, outre Mourad qu'on va essayer d'avoir, il y a Steven. Bonsoir Steven.
Bonsoir Hassan.
Steven, toi tu as participé à une manifestation, tu as suivi une manifestation, c'était ça. Samedi dernier.
Oui, c'était plus un rassemblement qu'une manifestation, mais oui, c'est ça.
C'était pour quoi ?
Alors, c'était pour la journée mondiale du droit pour l'IVG, pour l'avortement. Et donc, le planning familial et le collectif féministe 45 se sont réunis place du Mar 3 pour justement discuter, proposer des petits ateliers aux passantes et passants sur le thème de l'avortement.
Et tu as tendu ton micro, on écoutera tout ça. Et puis, Victor est là. Bonsoir, Victor.
Bonsoir, Hassan. Bonsoir à toutes et à tous.
Thomas également, un peu par là. Il va nous rejoindre. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de le faire en direct. Alors, je suis pas très habitué à tous ces trucs électroniques et alors Mourad, est-ce qu'il m'entend, Mourad? Allô? Alors, attends, Mourad, est-ce que tu m'entends? Non, ben on l'entend pas. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer avec la chronique, peut-être.
On commence direct.
Attends, je vais. Bah, écoute, on va essayer ça.
Mais... ouais, c'est parti.
On va essayer. Mais je le vois, moi, pourtant, mais il ne m'entend pas, je crois. Voilà. S'il m'appelle, mais je suis en émission, monsieur. À bâton rompu, c'est jusqu'à 20h. Restez avec nous.
À bâton rompu avec Hassan Kerim. Bon.
Allô, Mourad? Attends, bouge pas. Allô? Allô, jeune homme? Ben oui, à peine manqué. Bon, bref.
C'est un désastre.
C'est absolument un désastre.
Mais non, tu vas y arriver.
Surtout qu'il ne nous entend pas et c'est un peu compliqué s'il ne nous entend pas. Du coup, j'ai du son de Steven. Est-ce que je le mets en route? Je vais le mettre en route et puis après on entendra. On essaiera une nouvelle fois, une dernière fois, Mourad, si nous entend. Steven, alors toi, tu as commencé ta chronique avec du son.
Oui.
Et on ne s'attendait pas à ça, mais écoutez, messieurs, dames, voici comment démarre le son de Steven. Pas de la douceur. De la douceur.
Un peu de douceur. Franchement.
Vas-y.
Parce qu'il y a des belles choses qui s'annoncent quand même, des belles nouvelles. Je ne sais pas si vous avez entendu quand même.
Quoi donc ?
Parce qu'on a trouvé l'homme le plus humain du monde, hein ?
Mais c'est qui ?
Michel Barnier.
Oui.
Tu peux couper le son.
Justement, ça s'est coupé tout seul, tu vois.
Voilà. J'ai rien fait. Parce que même Michael Jackson s'en est pas remis.
Ouais.
Mais regardez pas comme ça. C'est sur France 2. C'est lui qui l'a dit, hein, le 22 septembre 2024. Il suggérait un nouveau projet de loi sur l'immigration. Et il envisage même de supprimer l'AME, l'aide médicale d'État.
Ouais.
Et là, tranquillement, il ajoute qu'il agit par souci d'humanité.
Ouais.
Ah putain, il est tellement humain, ce mec. Ça en devient presque inspirant. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller brûler les dons des banques alimentaires pour avant l'hiver, tu vois. Mmh. Tu vois, histoire de m'inspirer un peu de cette humanité dont il nous fait preuve. Et pour vous dire à quel point il nous prend pour des cons, même le journal Le Monde l'a relevé ce truc-là. Mmh. Hein, et pourtant, on sait que le journal Le Monde, c'est pas le journal le plus turbo, militant, de gauche, etc. Mais bon, même eux, ils ont trouvé que c'était une grosse connerie. Eh. Bon, après, ça a l'air de marcher, hein, son manège. Hein, parce que ce vieux con, ouais, on va l'appeler le vieux con maintenant, annonçait un gouvernement équilibré, représentatif et pluriel. Bon, pour l'équilibre, hein, quand t'as plus ta place en EHPAD qu'à la tête d'un gouvernement, moi je me pose des questions. Ensuite, représentatif, ouais, pareil. Hein. Quand t'as plus de ministres que de gens qui ont voté pour eux, pareil, je suis pas sûr que ce soit le bon terme. Et pluriel, alors pluriel, oui, effectivement. Hein, on a toutes les nuances de droite dans ce gouvernement. Hein. La droite anti-immigration, la droite climato-sceptique, la droite sexiste et misogyne, la droite transphobe, bref. Un bon gouvernement de gros fachos quand même en général.
Mais de quoi du coup,
Non mais voilà bon. Non, mais attends.
Fachos c'est connoté.
Donc oui
ils
oui.
Ils sont LR, ils sont Renaissance.
Ils sont de droite.
Bon.
Bah, hey, non mais je vais prendre un exemple. Bruno Retailleau, oui. Hein, ministre de l'Intérieur. Mm. Bon, après vous me connaissez, hein, moi je suis toujours quelqu'un travail sérieux et tout machin. Je suis allé sur Wikipédia. Ok.
Ouais.
Allez, je pose ça là. Oui, vous pouvez me juger sur mes sources et tout, mais avec lui, pas besoin de gratter longtemps avant de constater que ça pue la merde quand même. Hein. Alors, il est pour
ouais.
L'instauration des peines planchers, l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans, la suspension des aides sociales et familiales pour les parents. Il est pour la relance du nucléaire, pour la suppression de l'AME, pour un moratoire vrai. Sur l'immigration, tout pour la diminution du nombre de fonctionnaires, pour l'augmentation de la TVA. Il est pour le retour de la semaine à 39 heures. Il a appelé à utiliser la chloroquine pendant le confinement. Il a proposé l'instauration d'un délit il a proposé la mise en place d'un délit de non-assistance à Français en danger. Il a voté contre le délit d'entrave numérique à l'IVG. Il s'est opposé à l'instauration de l'IVG dans la Constitution. Il est contre l'augmentation du SMIC. Il s'est opposé au mariage entre personnes du même sexe. Il a voté contre le projet de loi visant à interdire les thérapies de conversion. Et il a voté pour la création de l'étoile de la mort.
Mmh. Ben oui.
Et dans tout ça, il n'y a qu'une seule info qui est fausse.
Oui, mais c'est ça. C'est bien ça. Mais justement, alors, t'as dû vérifier tout ça, non?
Ouais, bah Wikipédia, etc. Mais en fait, tout ça est vachement documenté. Il suffit d'aller voir les archives même de l'INA où on retrouve pas mal de passages, voilà, sur YouTube, etc.
Bon, mais bref, tu devais pas nous parler de samedi.
Oui, pardon. Oui,
ah,
c'est
il y a pas un rassemblement samedi.
Oui, samedi, pardon, et... excusez-moi. Mais j'y viens. Je voulais juste planter un peu le décor pour comprendre un peu l'angle que j'ai choisi pour la suite.
Ah, hein. Bah, je vois bien.
Donc, ce samedi 28 octobre, c'était la journée mondiale pour le droit à l'avortement. Le collectif féministe en tout genre 45 et le planning familial 45 ont organisé un rassemblement place du Martroi et je les laisse expliquer en fait ce qu'il en était.
Alors, on l'écoute tout de suite.
On est là vraiment pour se battre pour ce droit-là et on va chercher un petit peu les personnes dans la rue pour leur faire signer une initiative européenne. En fait, il y a une campagne qui existe pour montrer que le droit à l'IVG, il n'est pas égal dans tous les pays d'Europe. Et du coup, il y a cette pétition-là à signer pour que chaque pays puisse vraiment s'engager pour que ce droit, il soit égal pour tout le monde. Et donc voilà, aujourd'hui, on est rassemblés pour ce droit-là, tout ensemble, et pour lutter pour nos droits en criant le plus fort. Vous pouvez l'entendre derrière moi.
Et donc, si vous avez suivi tout mon explication sur le gouvernement juste avant, vous comprenez que ma question soit de savoir si l'IVG, donc l'avortement, l'interruption volontaire de grossesse, n'a rien à craindre aujourd'hui en France. Hein, surtout.
Alors aujourd'hui.
Je voulais juste rajouter ça, surtout lorsque l'on constate le recul de ce droit dans d'autres pays voisins, type Italie ou Pologne. Tu peux y aller.
Aujourd'hui, là, avec le nouveau gouvernement, pour l'instant, notre droit à l'IVG, il a évolué petit à petit chaque année. Donc, c'est un droit auquel on a la chance d'avoir en France par rapport à d'autres pays européens. On n'est pas à l'abri qu'un jour, ça reparte en arrière. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on continue à se battre tous les jours. Moi, en tant que femme, ça me fait peur. En tant que planning familial, ça nous fait peur aussi. On se sent pas à l'abri avec ce nouvel gouvernement, on se sent pas à l'abri ni sur les droits des femmes ni sur les droits des personnes LGBTQIA+. Non, ça nous fait peur. Il y a plein de manières pour moi de toucher au droit à l'IVG. En fait, on n'est pas forcément obligé de toucher à ce qui est dans la Constitution, mais par exemple en baissant les subventions des associations qui travaillent autour de l'IVG, qui accompagnent les femmes, en baissant les subventions, en baissant l'argent, ça va forcément rendre l'accès à l'IVG plus difficile. Nous, par exemple, à Orléans, on est dans un désert médical. Pour trouver une médecin gynéco, c'est très compliqué. Si un jour le planning familial d'Orléans y ferme, on sait que le droit à l'IVG il va être difficile sur la ville d'Orléans. Donc il y a plusieurs manières de toucher à ça.
Après, vous allez me dire, oui, Steven, c'est normal, on t'interroge toujours que des gauchos. Hein. Là, c'était un bénévole du planning familial. Et je vous dirais, détrompe-toi, jeune droitard décomplexé, parce que, en plus d'être une merde, t'es aussi dans l'erreur.
Mais non,
il a coupé son micro, j'adore.
Il vit ce qu'il veut.
Évidemment. Alors, j'en ai aussi profité pour interroger des passants et en leur demandant leur avis sur la situation politique actuelle.
Comme, enfin, je suis pas ultra intéressé par la politique, donc ça va être difficile de faire des projections. Après, de ce qu'on voit, notamment de Monsieur Barnier, ses prises de position par le passé. Voilà, on est plutôt à risque, je pense. Maintenant, j'ai envie de dire qu'ils ont pris publiquement l'engagement de ne pas y toucher, donc espérons qu'ils vont tenir leur engagement, c'est tout ce que j'espère. Mais quand on voit que le résultat des urnes législatives a été un peu bafoué, je suis pas forcément plein d'espoir.
Et bim les droitos, pas besoin d'être de gauche ou militant pour voir que Macron et son gouvernement font un énorme doigt pointé vers le peuple. Un gouvernement tenu par l'extrême droite, voilà la réalité du pays aujourd'hui. Un pays où le racisme est en augmentation à cause de cette politique ultra sécuritaire et mensongère. Retat facho là. Et il l'a dit dans son discours d'investiture, le mot d'ordre ce sera l'ordre. J'ai juste un mot pour Barnier, si t'es humain, barre-toi de là. Voilà, ce sera mon petit mot. Parce qu'au début, j'avais écrit qu'il pouvait crever, mais je me suis dit, bon, c'est peut-être un peu trop vénère. Du coup, j'ai abaissé un peu mon discours.
Ben oui, bien sûr. tu as bien fait.
Tu as bien fait. On est humain.
Mais je crois que c'est parce que tu n'as pas écouté ce qu'il a dit tout à l'heure devant l'Assemblée nationale, où il a vraiment gauchisé son discours. Vous demande d'aller écouter. Et peut-être on en parle la semaine prochaine.
Et je voudrais juste terminer par rapport à l'initiative dont on a entendu parler. Allez sur Instagram, sur le compte mavoixmonchoix.org. Tout collé.
C'est quoi ça?
C'est pour signer l'initiative européenne pour un droit à l'IVG partout en Europe.
D'accord, ça existe. Redis la,
le nom, c'est mavoixmonchoix.org. Tout collé.
Bon, les amis, je vous annonce qu'on a perdu Mourad. Je le vois plus. On va essayer de. On va faire un autre sujet qui n'était pas tout à fait prévu pour ce soir. On a parlé de la rentrée là. Il y a 15 jours, monsieur.
Oui, c'est ça. Ouais, une semaine, on va
avec
dire.
Avec une interview, ça. Thomas, que tu nous avais ramené du nouveau recteur.
Ah oui, non, si tu parles sur Abaton rompu, oui, on en avait parlé même il y a, je pense, trois semaines à peu près. C'était juste après, oui, ce point presse que le nouveau recteur Jean-Philippe Agresti avait mis en place pour parler de la rentrée. C'était juste avant, la rentrée, c'était le 2 septembre, donc voilà, vous comptez quelques jours auparavant. Il avait fait un peu le point là-dessus, et puis nous, on l'avait un peu présenté, on en avait longuement parlé dans la rédaction pop, mais comme on aime bien le contradictoire et qu'on aime bien équilibrer un peu les choses, eh bien on a rencontré aussi deux représentantes syndicales de la fédération FSU. Alors pour la prononciation, pardonnez-moi, le SNUIPP FSU premier degré, c'est Lucille De Wattin qui est professeure des écoles, et pour le SNES FSU, c'est-à-dire pour le second degré, on a rencontré Sylvie Lenné. Je pense que tu as déjà dû rencontrer aussi dans d'autres reportages. Assez connu dans le milieu syndicaliste des enseignants. Donc effectivement, on a parlé de plusieurs dossiers avec elle et avec aussi le recteur Jean-Philippe Agresti. C'est un papier que vous pouvez retrouver sur le site de la Rédac Pop, le média citoyen et participatif de Radio Campus. Donc on a fait un petit peu le point pour évoquer un peu cette rentrée. Forcément, les points de vue divergent. On a évoqué le point de vue de Jean-Philippe Agresti. Maintenant, c'est le tour de ces deux enseignantes. Et donc je vous propose d'écouter deux de ces dossiers que nous avons évoqués. Tout d'abord, la manière tout simplement dont s'est passée la rentrée dans le Loiret, et c'est Lucille De Wattin.
À partir du moment où on est obligé d'utiliser des moyens de remplacement dès la rentrée pour faire en sorte d'essayer d'avoir un enseignant devant chaque classe, à partir de là, ça veut dire qu'il y a un problème de recrutement qui est structurel. À partir du moment où on en est à ne pas avoir un vivier suffisant, notamment au niveau de contractuels, c'est qu'il y a un problème, il y a un problème de recrutement et un problème structurel. C'est global, c'est un peu la tendance nationale, c'est-à-dire que les concours ne font pas le plein. Donc on arrive à l'été à devoir recruter des contractuels. Et en réalité, alors les contractuels ne vont pas être appelés sur du remplacement. Ils vont souvent être appelés par exemple sur les ouvertures de classe qui ont été actées là après la rentrée. C'est souvent des postes effectivement de contractuels. Par rapport à l'académie, le Loiret est plutôt déficitaire en enseignants et enseignantes. Et on a un réel problème, c'est-à-dire qu'il y a des territoires qui attirent peu, notamment du côté de Montargis. Et donc, effectivement, les contractuels, eux, peuvent refuser des postes. Ils ne sont pas comme les fonctionnaires où on leur dit vous êtes affecté à cet endroit et puis on y va. Donc il y a aussi ce côté un peu, enfin très délicat du côté de l'administration où ils doivent trouver des postes où les contractuels acceptent d'être.
Oui, c'était une réaction effectivement à l'expression que le recteur avait mentionnée au cours de son point presse, à savoir qu'il n'y avait pas, je cite, de tension structurelle au sein de l'académie Orléans-Tours. Il avait souligné que quelques difficultés pouvaient exister dans l'enseignement secondaire sur les matières telles que le français, l'anglais, ainsi que, je cite, quelques disciplines de niche en formation professionnelle. Il avait ajouté aussi que, justement, l'académie était particulièrement attentive à constituer un vivier de contractuels et il avait rappelé que ce recours aux enseignants non fonctionnaires dans l'académie est de 1% pour le premier degré et de 8% pour le second degré en début d'année scolaire. Mais comme vous avez entendu de la part de Lucie Léouatine, elle indiquait notamment que les concours ne font pas le plein et que surtout, dans ce cas des contractuels, ça pose problème notamment dans les territoires très ruraux qui ne sont pas attractifs puisque contrairement à des fonctionnaires qui sont fixés à un endroit et sur lequel ils doivent se déplacer quoi qu'il arrive, un contractuel peut décider de refuser tout simplement le poste qui lui est proposé. Donc ça, c'est là-dessus qu'elle était revenue notamment.
Ouais. On passe à la syndicaliste.
Ouais, tout à fait. Alors là, cette fois-ci, c'est Sylvie Lenné. On parlait notamment de la mesure phare de cette nouvelle rentrée scolaire, les groupes de besoins qui étaient auparavant appelés groupes de niveau mis en place dans l'enseignement secondaire. Je vous propose de l'écouter.
Et ce qui nous permet de travailler en classe, c'est justement une hétérogénéité contrôlée, c'est-à-dire une hétérogénéité avec un nombre d'élèves raisonnable. Parce que c'est vrai que la priorité, c'est le nombre d'élèves, c'est pas leur niveau. En fait, depuis longtemps, l'école s'est adaptée aux élèves qu'elle avait. Et donc, on est habitué à prendre les élèves là où ils sont pour les amener un petit peu plus loin. Donc en fait, nous, ce qu'on veut, c'est se consacrer davantage à chaque élève, sachant que bon, on a une école maintenant avec qui a beaucoup changé, une société qui a évolué. On a des élèves, comme je dis souvent à l'inspecteur d'académie, tous les élèves maintenant sont à besoins particuliers. Normalement, l'étiquette à besoins particuliers, c'est des handicaps, des choses un peu difficiles, médicalement reconnues. Mais moi, j'ai envie de dire, tous les élèves maintenant ont une histoire, ils sont singuliers et l'école ne peut transmettre que si l'élève se sent pris en compte dans sa totalité d'être humain, on pourrait dire. Hein. Et donc, pour ça, il faut qu'il soit un nombre raisonnable parce qu'ils ne sont pas autonomes. Hein. L'autonomie, ça ne se décrète pas. Il faut l'apprendre. Il faut la transmettre par la confiance, par le temps qu'on prend. Il faut être capable à des moments, de pouvoir se consacrer à un gamin quand on le sent en difficulté. Et la classe, elle doit aussi apprendre, c'est une forme d'intelligence sociale, que chacun a son rythme d'apprentissage et qu'on n'a pas à être... être au même niveau, au même moment. Hein, c'est des respirations différentes. Et pour faire ce travail-là, qui est un travail aussi de mise en confiance et de prise de confiance en soi, il faut pas qu'on ait trop d'élèves. Ils ont tous des demandes, ils ont tous des besoins. Et effectivement, on est dans une école qui va à rebours de ces principes-là, avec une recherche permanente du chiffre, de l'évaluation, qui est une façon, en fait, maintenant les mots qui reviennent dans les bouches des chefs d'établissement, moi je suis dans le second degré, c'est pilotage. Donc on pilote, hein, et on nous met régulièrement à chaque pré-rentrée devant des tableaux. Voilà, comme si on était une entreprise. Alors, je ne dis pas, c'est intéressant d'avoir des indicateurs, mais on voit que ces indicateurs, ça devient l'alpha et l'oméga, alors que pour nous, c'est vraiment une donnée Et ça ne veut pas dire, parce que les indicateurs ne sont pas bons, que le travail n'a pas été fait et que des élèves n'ont pas progressé et que des élèves ne vont pas aussi se révéler par la suite. Hein. L'évaluation, c'est une photographie. Et justement, il faudrait maintenant qu'on puisse comprendre que l'évaluation, elle a pris trop de place, parce que l'évaluation, ce n'est pas un but. C'est juste peut-être un moyen à un moment donné de dire à l'élève, pour l'instant, voilà où tu es arrivé, mais c'était à cet instant T, et là peut-être dès demain, dès après-demain, ça va bouger. Hein. Alors que là, on est vraiment dans une école qui classe et qui enferme les élèves dans une case. Hein, c'est aussi pour ça qu'on s'est tout de suite, à la FSU, au SNUIPP, au SNES, érigé contre ces fameux groupes. Alors, qui sont devenus groupes de besoins, mais il faut savoir, là je reprends un peu ce que disait le recteur, c'est que, en fait, très rapidement, quand le ministère et quand les autorités rectorales et départementales ont commencé à nous parler des groupes de besoins qui, à l'époque, s'appelaient groupes de niveau, on a tout de suite protesté en disant que, justement, ça ne pouvait pas être des groupes de besoins parce que tels qu'ils étaient conçus par le ministère, c'était des groupes de niveau, puisqu'au départ, je vous rappelle qu'il était question d'évaluer les élèves en début d'année et ensuite de les laisser jusqu'au bout dans la catégorie qu'ils avaient intégrée, c'est-à-dire moyens, faible, fort. Alors évidemment, on va pas le présenter comme ça, parce qu'il y a tout un discours, tout un enrobage à l'éducation nationale. Donc maintenant, on aime bien le mot besoin. Il y a des élèves qui ont plus de besoins que d'autres. Bon, mais dans le langage des élèves et des familles, il faut pas se leurrer. Ça va être des élèves qui vont être classés comme des nuls, et d'autres qui vont être classés, qui vont s'autoproclamer les forts. Et nous, ce dont on a besoin justement, c'est d'une dynamique. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un peu de tout. Il faut qu'il y ait un peu tout. Il faut d'efforts pour tirer la classe, mais l'effort, ils doivent aussi apprendre qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'ils peuvent aussi avoir à apprendre des moins à l'aise, parce que à force, comment dirais-je, d'entendre des questions, des questionnements sur ce qu'ils pensent avoir compris, ils peuvent aussi, eux aussi se rendre compte qu'ils n'ont pas compris exactement, ou que de toute façon, le savoir, c'est aussi savoir écouter l'autre. Il y a une intelligence sociale qui se développe au sein du groupe, et c'est pas une logique d'exclusion, c'est plutôt une logique du tous ensemble. Et effectivement, dans une classe, chacun comme ça trouve sa place. Hein, et c'est à l'image finalement de la société qu'on fabrique aussi à l'école, où chacun a sa place. Il y a rien de déshonorant, il y a rien de plus important qu'autre chose. On a des talents, on a des capacités de progrès, et avec ça, on peut avancer ensemble et faire une société. Et donc voilà. Donc nous c'est plutôt le nombre d'élèves qui nous préoccupe, plutôt que un niveau homogène qui en plus n'est qu'un indicateur provisoire, puisque les niveaux ça bouge tout le temps. En fait, hein. La question, c'est de savoir comment des élèves vont réagir quand ils vont effectivement constater qu'ils sont tous, entre guillemets, au même niveau, dans la mesure où des élèves qui sont en difficulté ne s'entraînent pas nécessairement les uns les autres à surmonter les difficultés. C'est-à-dire que, en quelque sorte, on peut très bien avoir une absence de dynamique de classe, puisque tous les élèves se sentent en difficulté. Et donc, il peut ne pas y avoir de stimulation, on va dire. De même que l'effort, à force de considérer que tout est acquis, finalement, peuvent aussi s'endormir sur leur laurier. Disons que le seul avantage de ces groupes dits de besoin, c'est le groupe. C'est-à-dire le fait d'être en effectif réduit. C'est pour ça que quand le recteur nous parle de groupe classe, ça n'existe pas. C'est une classe. Et nous, ce qu'on veut, c'est des classes réduites pour qu'en fait, les conditions d'individualisation de la pédagogie et de la transmission du savoir puissent être réunies. Les enfants ont besoin qu'on les prenne en considération presque individuellement. Hein. Donc c'est ça. Donc c'est l'absence de dynamique qui est à craindre, et aussi le regard que les enfants peuvent porter sur eux-mêmes. En disant, ça y est, je suis catalogué, je suis faible, ou alors ça y est, je suis reconnu comme un fort, sans compter le jeu des parents, qui, on le sait, c'est déjà arrivé en début d'année, qui vont faire pression sur l'école pour que leur enfant soit intégré dans le groupe d'effort, parce que ce serait déshonorant pour leur enfant de traîner avec des moyens ou des faibles. Enfin, il y a tout ce problème-là de l'étiquette.
Et on a évoqué également d'autres questions telles que les dédoublements de classes, l'école inclusive ou encore l'évolution de la carte scolaire dans l'académie. Vous retrouvez cet article dans la Rédac Pop ainsi qu'une émission de 30 minutes qui a été diffusée samedi dernier, qui sera rediffusée ce samedi à 15h.
Et qui est évidemment en podcast. Alors on va désannoncer, c'est Madame Sylvie Léné. Hein,
Léné, ouais, c'est ça, tout à fait.
Qui est de la FSU, effectivement, que je connais un peu. Victor ?
Oui, moi je voudrais revenir sur le fait qu'il y a les parents qui fassent pression pour que leurs enfants soient placés dans les groupes de force. En fait, ça c'est la démonstration parfaite qu'au final l'école est une machine à reproduire les inégalités. Et en fait il y a toute une stratégie de la part des parents, que ce soit au niveau de la carte scolaire, que ce soit au niveau des options. Moi je sais que par exemple mes parents voulaient que je sois dans des bonnes classes, du coup ils m'ont mis en LV1 allemand. Alors je ne sais rien dire en allemand, c'est j'ai quoi, eu 10 ce bac.
Ils avaient peur d'une autre guerre.
Non,
je sais s'il saura parler aux gens.
L'occupation.
Non, mais l'idée en fait derrière ça, c'est l'idée que les parents ont intégré le fait que l'école est inégalitaire et reproduit des rapports de domination sociale, donc du coup il faut être du bon côté de l'école, il faut être dans les bonnes classes, il faut être dans les bons trucs, etc. Et c'est pour ça que la question des groupes de niveau, pour moi, elle pose un frein extrêmement fort au principe d'égalité, parce que du coup elle établit des distinguos entre des élèves qui normalement sont censés être à même niveau scolaire et pédagogique, et du coup elle participe encore plus à des phénomènes de reproduction sociale.
Gauchiste. Allez, un peu de musique, alors Steven a choisi quelque chose de doux, et moi aussi, et c'est une surprise. Écoutez cette beauté.
Arms around me, I get a feeling that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up at daytime, moon lights up at night. I know you're gonna treat me right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. Listen to me, baby, hear every word that I say. No one can love you the way I do, 'cause I don't know how to love you my way. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night, fever in the morning, fever all through the night, fever.
Elle avait connu un grand succès avec son album La Llorona, c'était en 1997, avant de décéder en 2010. Lassa de la Sella a laissé un nom très, 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 très important sur la scène de la, comment je peux appeler ça, la pop peut-être, ouais, mais en tout cas guitare-voix sublime. Et il y a des chansons, un album posthume va sortir. Elle avait laissé des chansons avec son guitariste et qui a sorti un album plutôt sympa et plutôt pertinent, qui sort ou qui va sortir la semaine prochaine, il me semble. À l'instant, une reprise, une très belle reprise de Fever. À bâton rompu, on continue.
À bâton rompu, sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, tous les mardis de 19h à 20h.
La scène nationale du théâtre d'Orléans lance sa saison 2024-2025 ce mardi avec un spectacle à 20h30 ce soir, Évidence Inconnue au théâtre d'Orléans, spectacle tout public. J'ai rencontré en fin de semaine dernière Christophe Galland, directeur, et Renaud Debac, directeur adjoint. Tous les deux ont concocté cette programmation qui dure jusqu'en avril. Mais je leur ai demandé de parler de la programmation de ce premier trimestre avec des choses qui nous conseillerait à nous, auditeurs et auditrices de Radio Campus. Et d'abord, je leur ai posé la question, comment on fait une programmation d'une salle aussi prestigieuse? Écoutez la réponse de Christophe Galland.
Une programmation, ça se fait pour un territoire, ça se fait pour le territoire orléanais, la métropole et alentour. Donc il y a plusieurs axes dans le choix de programmation. Il y a la manière dont vous prenez ce qui existe, il y a aussi ce que vous allez poser pour trouver des nouveaux publics ou développer des publics nouveaux et faire monter la fréquentation du théâtre. Donc ce sont évidemment en général des coups de cœur, mais des coups de cœur on peut en avoir 100 par saison. Le problème est qu'on peut pas avoir 100 spectacles dans la saison. Donc c'est un mix entre ce qu'on imagine devoir adresser au territoire et puis nos coups de cœur et tout ce qu'on supprime en fait, tout ce qu'on ne met pas.
On parlera tout à l'heure de cirque. Je vous disais hors micro que la scène nationale à Orléans est au niveau national, même on m'en a parlé ailleurs qu'à Orléans, est devenue une grande spécialité du beau cirque. Alors je disais, ça commence donc ce mardi 1er octobre, demain également à 19h, c'est Évidence Inconnue. Alors, qu'est-ce qu'il veut en parler? Ah, monsieur Galland, la presse en parle comme d'un moment suspendu. C'est quoi?
Ouais, c'est de la magie. J'aime bien mettre des disciplines un peu différentes qu'on n'a pas l'habitude de voir à Orléans. Donc là, c'est un magicien flamand. Vous savez que j'ai passé 10 ans à Bruxelles. Je l'avais reçu avec d'autres spectacles quand je dirigeais les Halles de Schaerbeek. Et là, il vient avec une proposition magique que je ne vous raconterai pas parce que ça enlèverait tout le charme, puisqu'il se passe des choses avec le public. Tout a l'air d'être laissé au hasard, et puis un peu comme toujours avec les magiciens, en fait, finalement, vous verrez que tout converge.
On connaît les spectacles de mentalistes, mais accompagnés par la musique, là, ce coup-ci.
Les musiciens, vous savez que les magiciens ont besoin d'avoir des complices, donc le musicien qui a une tronche, on peut dire ça comme ça, a un rôle tout à fait important là-dedans. Mais la magie, vous la verrez en filigrane de temps en temps dans la programmation. En janvier, on a la plus grande compagnie de jonglage anglaise, qui est tellement virtuose, ça fait 20 ans qu'ils font ça, qui est tellement virtuose qu'elle a décidé aujourd'hui de jongler avec des balles, ça un peu comme tout le monde, mais qui apparaissent et qui disparaissent pour corser la chose. Donc ça c'est carré. Vous les verrez à Orléans, et si vous voulez vraiment perdre de l'argent, vous allez à Paris avant, parce qu'ils auront une série au Théâtre de la Ville juste avant nous, mais vaut mieux le voir ici. Et puis il y a de la magie un peu en général dans les spectacles de cirque, maintenant ça fait partie de la dramaturgie. Donc le 10 et le 11 octobre, vous pourrez voir Radio Manioc, dans lesquels vous avez aussi de la magie, mais beaucoup d'autres disciplines, évidemment, toutes les grandes disciplines circassiennes, le mage chinois, le trapèze, etc. Mais ça a la particularité que ce sera créé ici pour la première fois en frontal. Donc ça raconte un épisode particulier de l'histoire de la Réunion, un moment où l'île était pétainiste dans les années 40 et l'océan Indien était entouré d'Anglais qui n'étaient pas vraiment pétainistes. Donc il y a eu blocus de l'île de la Réunion. Il n'y avait plus un bateau qui arrivait. Donc plus d'essence, vite plus de blé, plus de quoi se refaire des chaussures. Et les habitants ont dû passer 3 ou 4 ans comme ça à finalement bricoler, réinventer, travailler en autarcie. Et c'est ça que cette histoire raconte. Et c'est un collectif de cirque réunionnais qui s'est construit pour cette histoire, avec à leur tête en fait deux grands circassiens qui ont travaillé pour le Cirque du Soleil. Ah. Et alors l'intérêt aussi, c'est que c'est un collectif vraiment réunionnais. Donc vous savez que la Réunion, c'est un endroit où la musique est particulièrement importante. Une petite île, mais qui a une culture incroyable, puisqu'elle est métissée. Vous avez l'Inde qui est pas loin, vous avez des influences qui viennent de l'Afrique, donc c'est un réservoir musical assez incroyable. Et évidemment, la musique fait partie aussi de l'ADN de la scène nationale.
Oui. Voilà. Et la compagnie s'appelle Circonflexe, il faut le dire.
Circonflexe.
C'est le 10 et le 11 octobre prochain. Et c'est pas plein, ça?
Il reste des places, et en plus, si vous voulez vous initier au jonglage, à la magie ou aux portées acrobatiques, vous avez des ateliers le samedi et le dimanche.
Très bien. Musique maintenant. Là aussi, vous avez votre petite patte intéressante sur la programmation, monsieur Debac. On commence par quoi?
Commençons par parler d'Angélique Kidjo, par exemple.
Alors... Agolo, le titre qui a fait découvrir Angélique Kidjo à la scène internationale il y a quelques années. Depuis, la chanteuse, vous le savez, hein, la franco-béninoise, la diva, est devenue une artiste qui écume des scènes prestigieuses internationales. Elle est à Orléans le 15 octobre prochain.
Une artiste de classe mondiale, on n'est pas peu fiers de l'accueillir pour la première fois à Orléans. Alors, une artiste qui a collaboré avec divers horizons artistiques, on pourrait citer Alexandre Tarot, Sting ou Alicia Keys, bref, on passerait beaucoup de temps à citer tous les artistes qu'elle a côtoyés. Mais en tout cas, elle fête ses 40 ans de carrière, elle est encore jeune, elle a 63 ans. Et donc, dans la grande salle, le 15 octobre, il reste encore des places, mais pas tant que ça, une soixantaine. Il y a encore de quoi faire plaisir à certaines de vos auditeurs ou certains.
Je suis persuadé que ça va se remplir très vite.
Oui, et donc l'album qu'il viendra présenter s'appelle Mother Nature, un titre teinté de sa patte musicale qui entre l'afro-funk, la pop, ça va danser, il va faire très chaud dans la salle en tout cas, plus chaud que dehors.
Angélique Kidjo, mardi 15 à 20h30 au Théâtre d'Orléans, réservez vos places. On continue ?
On continue, on pourrait parler... De Louise Jalut, par exemple. Louise Jalut, alors, autre style, autre continent. Alors, on pourrait dire, Louise Jalut est française, c'est une bandoneoniste. Alors, le bandoneon, quelques mots, cette sorte d'accordéon à section carrée qu'on associe très vite, trop vite au tango argentin ou uruguayen. En fait, c'est un instrument allemand qui a traversé l'Atlantique à la fin du 19e et qui s'est gorgé de l'esprit du tango portaigne. Bon, alors, Louise Jalut, en fait, elle a fréquenté le conservatoire de Gennevilliers en région parisienne, le premier conservatoire en Europe à avoir ouvert une classe de bandoneon. Elle en est aujourd'hui une des rares femmes solistes pour cet instrument et nous vit avec un album qui s'appelle Jeu, J-E-U, et qui, après avoir expérimenté on va dire, toutes les subtilités du tango, vient avec un album qui va croiser les genres, en tout cas elle pousse les murs, et avec la complicité du compositeur Bernard Cavana, qui a été d'ailleurs directeur du conservatoire de Gennevilliers, et bien elle réinvente et transforme les œuvres de Bach, de Schumann, de Brassens. Donc un instrumentarium un peu typique du tango, qui flirte avec le jazz, mais elle va réveiller, on va dire, le répertoire classique, mais pas que. On pourra d'ailleurs entendre une merveilleuse interprétation du boléro de Ravel pour bandoneon. Il faut absolument venir écouter. Il reste encore des places, mais ça part plutôt vite.
Mardi 5 novembre, pardon, à 20h30.
Vous voyez, on a des femmes, hein. Angélique Kidjo, Louise Jalut, mais même dans le cirque, on en a. Vous pourrez voir Made in Finland pendant les vacances de la Toussaint, quand les étudiants n'ont pas trop de choses à faire, enfin, sauf des révisions et un tas de choses, et puis sortir. J'en ai une étudiante à côté de moi, puisqu'on a des personnes en alternance au sein de la scène nationale d'Orléans. Donc, Made in Finland, c'est une histoire de filles. Il n'y a que des Finlandaises, sur scène. Et comme c'est des Finlandaises, et ben elles vous racontent la Finlande. C'est un spectacle qui tourne depuis 10 ans, c'est vous dire le succès que ça a un peu partout. Avec une petite interruption, puisque leur camion de décor a brûlé en décembre, mais ça a tellement de succès qu'ils ont décidé de tout reconstruire. Alors, en fait, vous savez qu'on a des grandes écoles de cirque en France, et aussi en Belgique d'ailleurs, et que le monde entier vient chez nous pour apprendre les disciplines circassiennes. Donc les Finlandaises sont venues aussi il y a un certain temps, et elles sont arrivées dans un pays qui leur a causé un choc culturel. Vous voyez, parce que le rapport à l'alcool, au sauna, à la forêt, à la femme, n'est pas le même en Finlande et ici. Donc c'est tout ça qu'elle raconte dans un spectacle où elle casse les clichés à la hache et au sens propre, parce que vous les verrez manier une hache, vous les verrez aussi sur des trapèzes, vous les verrez faire de la musique, vous les verrez, bon, toutes les disciplines circassiennes sont là, mais c'est un spectacle drôle qui finit à la hache, et pour les plus audacieux et audacieuses de vos étudiants et étudiantes, je signale qu'il y aura une caravane sur le parvis, une caravane sauna.
Ah.
Voilà.
Trois dates, hein. Jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 octobre, 20h30, 20h30 et 19h.
Oui, oui, oui.
Voilà. Il y a aussi, ici à la scène nationale, de la danse, beaucoup de danse, on parle de...
De danse et de musique, par exemple, oui, parce que alors c'était féminin, alors on a un duo masculin, cette fois, pour vous parler en tout cas de Mirliton. Alors un spectacle qui met en scène deux grands artistes, François Chéniaud et Aymeric Hainaut. Alors François Chéniaud, c'est un performeur, un chorégraphe, un danseur, et je crois qu'il est aussi musicologue à 16 heures. Il est avec Aymeric Hainaut, qui est un beatboxer virtuose. Alors ils font une pièce à deux, en fait, c'est deux artistes très très physiques. Alors leur spectacle, c'est deux corps qui s'affrontent, poussés par un rythme à sept temps, aussi primitif que gracieux à la fois. Donc un... Voilà, par son visage et sa bouche va exprimer des rythmes, et l'autre va les frapper au sol. Donc c'est vraiment une joute. Alors c'est très physique, et même ils finissent, on peut le dire, carrément épuisés. Ça atteint son paroxysme au cours du spectacle, bien sûr, avant de trouver l'apaisement. Mais ce spectacle très original, en tout cas, Mirliton, sera donné deux fois, les 28 et 29 novembre, chez nos amis du CCN d'Orléans. Alors... Il pourrait y avoir une subtilité, puisque, voilà, ça pourrait être aussi donné, on y réfléchit encore, en salle vitesse au théâtre, pour des raisons techniques cette fois. En tout cas, des dates à retenir.
Oui. Parlons tout de suite de la coopération. Vous êtes avec, donc on vient de parler du CCN, vous allez accueillir également la finale du concours international de piano d'Orléans. Vous êtes vous travaillez comment en collaboration avec d'autres structures orléanaises?
Bon, nous, on travaille surtout avec le centre chorégraphique, à vrai dire, puisque si on développe autant de cirques et si effectivement on devient une scène de référence au niveau national sur le cirque, c'est aussi parce qu'on ne fait pas beaucoup de théâtre, on le laisse au centre dramatique. Par contre, on collabore avec le centre chorégraphique sur la danse. La finale de concours de piano, c'est d'abord c'est biennal, c'est plus périphérique, mais avec le centre chorégraphique, c'est assez souvent. Mais on a aussi notre programmation danse propre, en plus de celle qu'on tisse avec le centre chorégraphique. Bon, Mirliton, c'était un peu un choix commun avec Maud Le Pladec et Raïssa. Mais on a d'autres choses. On a du flamenco aussi pour repartir sur un croisement danse et musique, vous voyez. Donc Los Bailes Robados, David Coria. Moi, mon fils parle très bien espagnol, moi, c'est différent. Mais c'est l'un des plus grands danseurs flamenco du moment, qui vient avec un ballet avec un grand déploiement scénographique. Vous verrez que la scène est très occupée, avec beaucoup de femmes sur scène. Et évidemment, un chanteur exceptionnel, et puis sa troupe de musiciens. Alors, on construit un plancher flamenco pour l'occasion. C'est un grand déploiement scénographique, parce que vous savez que ça doit claquer un peu comme dans Mirliton. Mirliton, ça joue sur 4 mètres carrés, vous êtes assis autour. Mais ils frappent sur le sol, un peu comme sur du flamenco. Donc, c'est une espèce de jeu avec tout ça.
Samedi 9 novembre à 20h30. Théâtre d'Orléans. On continue sur la musique, sur...
Alors, comme on se disait, on aurait pu... Il y a deux spectacles, bon, qui sont aujourd'hui complets, qui sont... Carla Mazza, le 13 décembre, et puis Clara Isée fin janvier, mais on pourrait parler de Brume. Alors, un artiste associé, en tout cas l'ensemble La Tempête, emmené par Louis-Noël Biestion. Voilà, qui est, on va dire, c'est un hommage. C'est un spectacle, on va dire, c'est un hommage au romantisme allemand. Alors, sur scène, point d'ensemble devant des partitions, etc. Ils sont mobiles. C'est un hommage, on va dire, à l'itinérance autour d'un répertoire romantique. On parlera de Schumann, de Schubert, mais aussi de Mahler. Ils ont peu ou prou le même point commun, c'est qu'ils ont tous été influencés à un moment ou à un autre par la musique tzigane et les musiques, de l'Est. Donc c'est un spectacle, c'est un banquet, c'est un hommage, voilà, à l'itinérance, au voyage. Et ça, c'est donc le 15 novembre à 20h30 dans la grande salle au théâtre.
Très bien.
Ouais. Il faut imaginer ça, c'est une grande fête en fait, hein. C'est pas du tout un concert avec des gens assis. En fait, c'est des multi-instrumentistes, ils sont chanteurs, ils sont danseurs, et ils réécrivent les partitions. Ça, c'est aussi... Donc en fait, le prétexte, c'est une fête tzigane dans la forêt, au milieu de laquelle vous avez aussi bien le répertoire romantique qui est réinventé par cet ensemble, que de la musique tzigane et klezmer aussi d'ailleurs.
Anna Carla, Mazak Quintet, le vendredi...
Ça, c'est Brume.
Ah, c'était Brume dont on parlait.
15 novembre.
Brume, La Tempête même, le titre. Ouais. 15 novembre, 20h30. Voilà. Anna Carla, Mazak, on a parlé.
Complet, oui, malheureusement, complet aujourd'hui, oui. Ouais,
mais j'aimerais bien qu'on prenne un peu de temps sur le mardi 31 décembre et le 1er avec on va parler de cinéma et je crois que c'est, voilà, Notte Morricone, je pense que c'est que je le dis bien, un hommage à quelqu'un.
Alors vous savez que la scène nationale a la particularité de présenter un spectacle du Nouvel An. Évidemment, il faut quelque chose qui tienne le choc pour un événement pareil. Donc tous les ans, on commande une œuvre à un très grand chorégraphe, et le chorégraphe cette année, c'est Marcos Moro, qui est un Catalan qui a beaucoup hanté les scènes d'Europe, qui maintenant ne fait quasiment plus que des opéras, parce qu'alors il a toujours des dispositifs délirants, et il joue toujours avec le cinéma. C'est quelqu'un, toutes les chorégraphies que vous pourrez voir de lui sont imprégnées d'univers cinématographique, alors quelquefois c'est très fantasmagorique, presque film... je dirais pas d'horreur, mais enfin, qui vous fait peur. Et là, il joue avec l'univers de Morricone, parce que quand il était petit, son grand-père adorait Morricone. Donc, en fait, il a passé son enfance devant des westerns morriconiens. Et il a inventé tout un dispositif autour de Morricone. Ça s'est créé en Italie, en extérieur, comme ils savent le faire, dans des petits endroits, vous savez, d'immenses châteaux où ils mettent 1000 places, une scène à l'extérieur. Et là, ça va se créer à Rome à la fin du mois d'octobre, dans un des plus beaux théâtres de Rome. Et puis ensuite, ça viendra ici. Donc le plus grand ballet d'Italie, le plus grand chorégraphe catalan, qui est désormais un grand metteur en scène d'opéra, et puis Morricone. Voilà.
Cet événement qui se passe sur la période de fin d'année, c'est un événement qui date maintenant un petit peu au Théâtre d'Orléans. Je vais vous dire exactement ce que m'ont dit des collègues, parce que j'en ai fait une ou deux soirées comme ça. Au départ, c'était aller un 31 décembre au théâtre, alors que les huîtres m'attendent. Pourquoi faire ? Et finalement, j'en ai fait et c'était plein. Alors, ça vient de quoi ?
Ah, c'est une tradition. Il y a déjà une petite quinzaine d'années, la ville avait souhaité qu'il y ait une belle fête, en tout cas au cœur de ville. Et ça a été proposé au théâtre, on s'en est saisi. 31 décembre et 1er janvier, toujours 20h30 le 31, 17h le lendemain, pour que tous les publics puissent, ceux qui font la fête et ceux qui font la fête le lendemain aussi, puissent venir. Et effectivement, oui, c'est un spectacle un peu, toujours un peu pétillant, un peu spectaculaire, et ça marche relativement bien, oui. Ouais. On est souvent complet.
Absolument, absolument. Est-ce qu'on parle de janvier, février, mars, on peut...
Peut-être aller, puisque oui. Le cirque, c'est comme notre aussi, hein, oui. Une chose qu'on développe fort. Mais vous savez, le cirque, c'est très inventif aujourd'hui. C'est une discipline qui va très loin, qui absorbe les autres disciplines. Mais on ne sait plus trop, à certains moments, si c'est du cirque, de la danse ou des arts plastiques, etc. Donc nous, puisqu'on vous m'avait dit novembre, restons sur novembre, le 26 D'accord. et le 27 novembre, nous accueillons la Chute des Anges. Raphaël Boitel. Alors, c'est un spectacle qui, voilà, les anges n'ont plus d'ailes. Comment vous, finalement, réatteignez les hauteurs ? Vous imaginez des acrobates et des circassiens qui ne peuvent plus s'envoler en altitude, c'est triste. Donc, tout le propos du spectacle, c'est justement de leur faire retrouver leur aisance aérienne, on va dire ça comme ça. Mais c'est un spectacle, au début, vous ne savez pas si c'est du cirque, de la danse, parce que c'est aussi très dansé. Il y a un jeu scénographique très puissant. Et puis, Raphaël Boitel, maintenant, elle est associée à Châteauroux, donc c'est aussi une manière pour nous d'être en lien avec les grandes scènes du territoire.
Bien sûr. Oui, vous faites jouer beaucoup d'artistes du coin. On avait oublié par exemple de parler là en octobre, je crois que c'est Johan Vallée, il est tourangeau, il me semble. Hein.
Oui, mais alors Johan, c'est complet.
Oui,
tout à fait. On a un soutien aux compagnies régionales. En plus, Johan, ça fait longtemps que je le connais, puisqu'il intervenait de temps en temps dans des compagnies liées à Bruxelles. Et là, il a une pièce qu'il travaille autour de la notion de l'attente et de, vous savez, je sais pas si vous connaissez la clinique de la Borde. C'était un lieu où un lieu psychiatrique, mais où les personnes soignées étaient laissées comme si, voilà, elles avaient des activités tout à fait normales. Et donc, il y avait tout un jeu sur l'attente. Et voilà, c'est de ça qu'il parle, Johan, à ce moment-là.
Mardi 8 octobre, 20h30, c'est de la danse, hein, ça s'appelle Abwarten. Abwarten, pardon.
C'est ça. C'est en allemand. Hein.
Oui, bien sûr.
C'est de l'allemand. Voilà.
Bien sûr. Je viens, et pourtant je viens d'un pays qui a été colonisé par l'Allemagne, vous voyez. J'avais envie que nous parlions également, hein, de choses que vous proposez aux étudiants et étudiantes.
Chose qu'on propose aux étudiants, et qui, ben, on leur propose de venir nous voir. Non, mais il y a toute une série de dispositifs. Il y a le Pass Culture avec lequel on est en lien. Même les vous savez qu'il y a des référents Pass Culture qu'on tente d'intéresser à nos jeux. C'est possible que sur la deuxième semestre, on invente des trucs un peu différents, un peu en extérieur, un peu participatif. Et là, on vous tiendra au courant. De temps en temps, on fait des incursions au Bouillon. Voilà, donc la salle de l'université. Et vous savez que tous les ans, c'est la deuxième année, puisque c'est ma deuxième année, on fait un temps international. Alors, ça sera autour de la Suisse cette année. Et scoop, puisque c'est pas dans la programmation, vous aurez au Bouillon un spectacle qui s'appelle Niagara 3000, qui est sur les chutes du Niagara par une performeuse suisse, mais que j'ai connue belge. Donc voilà, c'est l'immigration interne, vous voyez, et au continent européen. Et Niagara 3000, ça décrit aussi son débit de parole. C'est quelqu'un, j'ai jamais entendu quelqu'un parler plus vite. Et c'est absolument incroyable. Alors elle part en improvisation, enfin ça a l'air d'être improvisé, mais en fait il y a des dizaines de sujets qui sont pris les uns après les autres. Alors ça va des chutes du Niagara à l'écologie, aux larmes, à la situation de la Terre. Mais après il y a une enquête presque sur la manière dont les chutes du Niagara ont attiré des touristes. Les touristes ont fait qu'il y a eu des constructions, les constructions ont fait que le vent a dévié, enfin. Et c'est une performance, d'abord c'est très drôle, une performance fleuve, même si c'est des chutes. On va dire, même si c'est pas très long, mais alors elle a un débit. Vous finissez comme si vous aviez passé 30 minutes sous la cascade. Hein.
Alors, la difficulté de ce type d'interview, c'est le temps. On va bientôt arriver à la fin. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses dont vous voulez nous parler, Renaud, par exemple, pour la suite de la programmation ?
Un petit coup de cœur, on en a parlé. Oui. Il y a une artiste, alors on sera déjà tout début avril 2025, mais peut-être parlons-en, parce qu'elle sera en résidence ici au théâtre au mois de décembre, c'est la saxophoniste Camille Motion. Alors elle n'est pas très connue encore, elle est issue de dispositifs de tremplins divers, dont celui de l'AJC qui s'appelle Jazz Migration, voilà, qu'on soutient, qu'on a beaucoup soutenu ces dernières années. Et donc là, en fait, c'est en son nom, elle va sortir un album qui va s'appeler Flocon Volcan, le chaud et le froid. Et donc on l'accueille, on est ravis, parce qu'elle est side woman aux côtés d'instrumentistes plus chevronnés comme Géraldine Laurent ou Lisa Cadbero, orléanaise. Donc premier projet en son nom, et elle le donnera donc le 1er avril dans la salle Vitesse, qui est aussi parfois un peu un caveau de jazz. Donc un jazz, on va dire, organique, voilà, qui peut être défricheur de sonorités, mais tout d'un coup il y a des poustouflantes mélodies. C'est une excellente mélodiste, elle nous embarque, elle est entourée de jeunes musiciens comme elle, tout aussi talentueux.
Merci à vous, Renaud Debac, Christophe Galland. Merci à vous d'être passé dans cette émission à Bâton Rompu sur Radio Campus Orléans.
Merci à vous.
À Bâton Rompu sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tour. Je vous dis, c'est ce soir, hein, et demain également, je crois. Demain également, le spectacle qui démarre la saison du Théâtre National, Scène Nationale. On y reviendra. Il y a d'autres choses à partir de janvier. Je leur ai promis de revenir les voir pour qu'ils nous donnent leur coup de cœur pour la suite de la saison. Est-ce que vous aviez d'autres choses? Parce que je me rends compte qu'on est on a 10 minutes là. Oui,
alors aujourd'hui, c'était le 1er octobre, rassemblement devant la cathédrale.
Ah, je croyais que tu avais droit à recolère.
Oui.
Non, vas-y.
Parfois,
il peut dire des choses.
Tu as quand même une petite réflexion sur ce que tu as entendu.
Après, sur la question de la programmation, il faut aussi dire que les programmations, c'est comme les bibliothèques, hein, dans une ville, c'est politique. Ça veut dire qu'il y a.
Tu crois.
Oui, il y a des choix, il y a des sensibilités politiques qui font qu'on accepte ou pas certaines pièces, etc. Mais
c'est pas systématique.
Mais voilà,
je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Mais par contre, dans ce que tu as entendu, est-ce qu'il y a des choses politiques que tu voulais lier à la mairie d'Orléans?
Non, je voudrais pas me mettre à dos la mairie d'Orléans.
Non, ça peut arriver, mais réellement, c'est la scène nationale, pour y aller quelques fois, ils sont assez libres de leur programmation, généralement.
Mais du coup, donc aujourd'hui, rassemblement, journée de grève nationale. Donc,
alors, tu y étais?
J'y étais, donc j'ai pu rencontrer des étudiants, des membres du Nouveau Front Populaire, des syndicats, et donc on a pu un un peu discuté, notamment du nouveau gouvernement, hein, de leurs attentes vis-à-vis de ce gouvernement Barnier et des membres qui le composent. Donc ils restent quand même sur leur position. Hein.
Tu nous as ramené du son de la toute première manifestation à l'annonce du nom de Michel Barnier. Mmh. Vous étiez 200.
Ouais.
Et là?
Là, on était un peu plus. Alors, c'est selon
le syndicat. Toi qui vas tout le temps dans les manifestations, ça s'essouffle quand même, non?
Bah oui et non. Enfin, parce qu'on voit qu'il y a quand même les habitués qui sont toujours présents. On voit aussi de nouvelles têtes. Hein, honnêtement, on voit de plus en plus de nouvelles têtes, notamment du mouvement Urgence Palestine qui se greffe à toutes les manifs, hein, qui sont très présents. Et en fait, mine de rien, ça amène des profils qu'on ne voit pas souvent en manif.
Il y avait OST ou pas?
Organisation Solidarité Trans, pour les auditeurs.
Il y avait un de leurs représentants, il me semble. Oui.
Alors, moi, je voulais aussi revenir juste sur ce que tu m'avais dit tout à l'heure en off avant l'émission. Tu m'as dit qu'il y avait, selon les syndicats, près de 500 manifestants à Orléans.
C'est ça.
Ah bah, donc, du coup, ça veut dire qu'ils sous-estimeraient même, les syndicats, le nombre qu'ils étaient à Orléans. Parce que moi, je lis chez nos confrères de la République du Centre eux comptent. Ils comptent, hein, eux-mêmes, les journalistes, le nombre de manifestants. Ils ont compté près de 600. Bah, je l'ai fait moi-même, en fait, à l'époque où j'étais journaliste chez eux. Mmh. Près de 600 manifestants étaient apparemment rassemblés au départ de la cathédrale à Orléans en fin de matinée. Donc, ça, c'est un comptage l'AREP. Hein.
D'accord. Donc, voilà.
Donc, l'AREP annonce plus que les
syndicats. Ouais, plus que les syndicats, c'est quand même à souligner.
C'est cocasse.
Hein.
1000 personnes selon la police.
Et pour être tout à fait complet, parce qu'il y a eu d'autres manifestants également dans d'autres villes du département, elles sont également relatées par nos confrères de la REP via leurs agences locales. Entre 100 et 150 personnes étaient présentes à Montargis. À Pithiviers, je ne sais pas s'il y a eu un comptage, je ne vois pas en fait de comptage sur l'article, à moins que je me trompe, mais j'en ai pas l'impression. Et pour Gien, on a fixé une présence de 65 personnes. Big up au territoire sur lequel j'ai travaillé pendant 3 ans au sein de l'agence locale. Si ça reste ainsi, on ne va pas défiler, sinon ça va être ridicule, avoué en milieu de matinée Ludovic Cosson, le secrétaire de l'Union locale CGT à Gien. Bon, les forces quand même, les Giennois, je sais que la gauche a un peu de mal en ce moment à se mobiliser, mais voilà.
On s'en fout, on n'est pas très écouté à Gien. De toute façon, on est quand même très écouté à Tours. Nous vous remercions. Oui, je reçois quelques fois des messages d'auditeurs à Tours. Radio Campus Tours en force. Vraiment, on est ensemble. On revient la semaine prochaine, peut-être. C'est quand, Angélique Kidjo? Parce que peut-être je vais demander...
La semaine prochaine, c'est les Amis du Monde Diplo, normalement.
Normalement, mais si Angélique Kidjo, je vais demander une...
Un report?
Ouais, une RTT, un truc. Enfin, on va voir.
RTT ici?
Ouais, mais c'est le... Mais...
Non, je raconte.
Ah ouais, vous discutez pendant le... mais il serait temps qu'on dise au revoir, messieurs.
Bah oui, 19h56.
Bah oui, c'est assez rare je donne l'antenne.
Juste pour dire qu'on devrait publier d'ici demain un papier sur le 1er octobre à Orléans, avec quelques sons d'étudiants, de syndicats, de partis politiques.
Et ton article cinéma aussi.
Et oui, demain on a une sortie de film aussi, All We Imagine As Light. Donc un film qui a été primé au Festival de Cannes.
Grand prix. Hein.
Oui, voilà. Absolument. Grand prix.
Et qui sort demain au Cinéma des Carmes. Ouais. Donc,
qui apporte une particularité d'être financé par la région centre et dont la société de production également est orléanaise. C'est aussi pour ça que...
Société orléanaise, absolument. Ouais.
Et t'as un petit synopsis ou...
Le petit synopsis, ça se passe dans la ville de Mumbai en Inde. Donc c'est un film indien. Donc ça faisait plus de 30 ans qu'on n'avait pas eu de film indien. Et donc l'histoire, elle suit deux femmes dans la ville de Mumbai et ça traite de la place des femmes, de la place de la religion dans la société indienne, de la gentrification aussi. Donc voilà, un super film. Franchement, allez le voir si vous avez l'occasion.
Il sera à l'affiche au Carme. Hein.
Exactement.
Et donc retrouvez ces deux articles sur le site de la Rédac Pop. Oui, on produit.
Parfait, on produit. Et puis lancez aussi un appel à ceux qui nous écoutent et qui ont envie d'écrire.
Bien sûr.
Et qui est de participer à l'aventure de la Rédac Pop.
Exactement.
Prendre contact avec Monsieur Thomas ici à la radio et il vous expliquera tout ça mieux que nous.
Vous vous trouvez mes contacts sur le site de la rédaction plus de la République du Centre, j'étais avant, et de Radio Campus Orléans également. Voilà, vous avez mon adresse mail, contactez-moi, n'hésitez pas.
Ouais. Allez, j'allais dire, est-ce qu'ils viennent ou ils viennent pas? Ils viennent d'arriver. Mais... Ride On à Orléans dans quelques minutes. Ride On, la plus ancienne émission de reggae dans le Loiret, en tout cas, mais dans la région Centre aussi, il me semble. On les accueille
dans le monde même.
On les accueille toujours avec plaisir. On leur laisse la place propre. Avec ce groupe qui fait du jazz et du reggae, ils sont belges avec quelques Jamaïcains dedans. Ils s'appellent Jamaican Jazz Orchestra. Eux, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Passez une excellente soirée, une bonne semaine et peut-être à mardi prochain. On vous tiendra au courant.